répondre à l'invitation d'Internews parce que nous allons parler activisme contre les violences sexuelles, les 16 jours d'activisme de lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre en République démocratique du Congo. Mais bien évidemment, nous allons parler beaucoup plus des acquis puisque on parle trop souvent de la lutte et nous luttons depuis plus de 20 ans maintenant pour l'éradication de toutes formes de violences notamment basées sur le genre, faites à l'endroit des femmes, les femmes du monde entier, mais particulièrement les femmes de la République démocratique du Congo. Nous allons évoquer l'historique et la spécificité ou les spécificités de la campagne de 16 jours d'activisme, l'appropriation de la campagne par les Congolais et les Congolaises, les acquis de la lutte à travers la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences sexuelles, mais en réalité, le rôle des médias dans la réussite de cette campagne d'activisme. Et ensuite, on va envisager les enjeux et perspectives de la campagne contre les violences sexuelles basées sur les genres.
Ce forum est financé par la coopération suisse et avec un appui en supplément d'aide de l'USAID.
La première intervenante, Madame Esther Kamoignan, elle nous vient du ministère du Genre, Famille et Enfants. Elle va exposer sur l'historique et spécificité de la campagne de 16 jours d'activisme contre le violence sexuelle basée sur le genre. Madame, vous avez l'honneur.
Les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, c'est une campagne mondiale qui tire son origine du premier institut pour le leadership mondial des femmes, parrainé en 1991 par le Centre pour le leadership mondial des femmes. Les dates de début et de fin de la campagne sont respectivement le 25 novembre, journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, et le 10 décembre, donc la fin, journée internationale des droits de l'homme. Ces dates ont été choisies pour lier symboliquement la violence faite aux femmes aux droits humains. Là, on voudrait donner l'occasion de conscientiser le monde entier quant aux violences faites aux femmes, afin de prendre des mesures et d'agir pour éliminer toutes les formes de violences faites aux femmes. Les violences physiques, les violences psychologiques. Vous savez, souvent les violences domestiques dans nos pays ne sont pas considérées comme des violences. On considère que oui, la femme mariée, lorsque elle reçoit des coups de son mari, c'est normal. Et toutes sortes de privations qui constituent des violences pour les femmes. C'est en 1999 que l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Cette date a été choisie en mémoire de Sœur Mirabal de la République dominicaine, brutalement assassinée en 1960. Au début, lorsque la campagne a commencé timidement, et lorsque j'y pensais dans mon bureau, j'ai pensé au réseau Action Femmes. C'est les RAF qui venaient dans nos bureaux pour commencer à dire « mais c'est bientôt les 16 jours d'activisme, qu'est-ce qu'on va faire ?» Et je voudrais à cette occasion rendre hommage au réseau Action Femmes pour l'action qu'il a pu mener pour pouvoir amener tout le monde à comprendre et à pouvoir s'associer, à se mettre ensemble pour que chaque année, cette campagne soit organisée. Un autre acquis, je peux dire, c'est l'adoption de plusieurs lois qui répriment les violences faites aux femmes. Également, je peux dire qu'un acquis important, c'est la mise en place de différentes structures. Je voudrais terminer en disant ceci, que bien que les efforts importants soient menés, bien qu'il y ait des lois qui répriment, bien qu'il y ait des structures qui sont mises en place, mais il y a encore beaucoup d'efforts à fournir. L'effort, surtout dans le cadre des changements de mentalité. Les violences faites aux femmes sont souvent banalisées. Si vous partez ce matin dans les taxibus, peut-être qu'ils viennent de Selembao vers 24 novembre, vous allez voir s'il y a des personnes qu'on peut insulter, ce sont les femmes. Alors, il faut une campagne soutenue par les médias, avec tous les moyens. Nous voulons compter sur vous. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Madame Esther Kamonia, la deuxième intervenante de ce café de presse. Madame Clotilde Kabemba, vous avez la parole.
Il m'a été demandé de vous entretenir sur le sujet par rapport à l'appropriation de la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences sexuelles basées sur le genre. D'entrée de jeu, moi, je suis le résultat du RAF. Je suis le fruit du RAF. Je suis venu au RAF comme victime de violences conjugales et aujourd'hui, je suis à la tête de RAF. C'est déjà un acquis pour le RAF et pour la société congolaise. Actuellement, cette campagne de 16 jours d'activisme n'est plus menée seulement à Kinshasa, mais elle est menée dans toutes les provinces, dans les 26 provinces, par des organisations de la société civile que nous ne connaissons pas. Au niveau des différentes divisions de genre, on mène cette campagne. Et même les jeunes filles, entre eux, essaient un peu de s'organiser par rapport à la réalisation de quelques activités, par rapport aux 16 jours d'activisme. Par rapport aux acteurs, je citerai d'abord la société civile, à travers les organisations non gouvernementales. La société civile organise des actions de sensibilisation, de formation, d'encadrement et même de plaidoyer. Quand nous sommes venus au RAF, il y avait encore le problème de code de la famille. On faisait les plaidoyers par rapport à la révision du code de la famille. Aujourd'hui, c'était acquis. Le RAF a travaillé par rapport à cette révision. Le RAF a donné aussi son point de pouce par rapport à la mise en place de la loi sur les violences sexuelles. Le RAF a aussi travaillé par rapport à la mise en place, j'étais en train d'échanger tout à l'heure avec le chargé de programme, du premier plan national genre en 2011, le RAF a été parmi. Et nous sommes vraiment les acteurs parmi celles de la société civile. Je citerai aussi le pouvoir. Par le pouvoir, nous avons le pouvoir législatif. Il y a les députés au niveau de l'Assemblée nationale et même au niveau du Sénat qui votent les lois que nous proposons, que le gouvernement propose. Il y a aussi le pouvoir judiciaire qui ont cette responsabilité d'exécuter les lois. Il y a aussi le programme exécutif, comme Madame Esther Kamonia venait de le dire. À l'époque, il n'y avait pas AVIFEM. Aujourd'hui, nous avons AVIFEM. Il y a le secrétariat de la résolution 1325, nous l'avons. Donc, c'est le pouvoir exécutif qui a ce pouvoir-là de mettre en place toutes ces structures, mais aussi de programmer et de concevoir de plans nationaux, genre, des plans nationaux par rapport à la lutte contre le VIH/SIDA, par rapport à la lutte contre les violences sexuelles. Il y a aussi l'implication de plusieurs partenaires, comme ONU Femmes qui est là, il y a USAID, il y a les PNUD, il y a ONU Femmes, il y a MONUSCO Genre à l'époque aussi, il intervenait beaucoup. Il y a aussi il y a aussi MONUSCO Droits de l'Homme qui intervenait beaucoup. Il y a Konrad Adenauer, il y a Cordaid, il y a plusieurs partenaires qui interviennent dans le sens technique et même d'autres dans le sens financier. Et ce que nous décrions aujourd'hui, c'est de quoi on m'a demandé de parler, c'est par rapport à maintenant à l'implication de la population. La population doit faire partie de ces acteurs. Malheureusement, on constate que cette population n'est pas parmi les gens qui véhiculent le message, n'est pas parmi les personnes qui vulgarisent cette loi. Pourquoi ? Parce que la plupart des personnes ignorent des lois. Il y a la plupart des femmes ignorent leurs droits et ceci constitue un grand problème et un défi à relever pour le développement de la RDC. L'élite connaît quand même ce qui se passe et essaie un peu de s'approprier, mais de façon limitée. Pourquoi je dis de façon limitée? Parce que la plupart des temps, cette campagne, après le 16 jours d'activisme, nous l'oublions. Et des fois, il y a même parmi nous des femmes qui sont violentées, qui se taisent, qui ne savent pas comment faire. Et ils sont en train de mourir en elles-mêmes. Et cela est en train de pourrir nos familles. Et je me demande comment nous pourrons soutenir la RDC pour le développement durable. Il y a aussi les femmes d'autres catégories qui ne sont pas avec nous. Ces femmes-là qui sont dans les champs. Les femmes qui sont au marché en train de vendre. Les femmes monitrices, institutrices, les femmes qui sont dans la rue en train de vendre des fruits, il y a les filles qui sont à l'école, il y a les filles qui sont à l'université. Celles-là, qui sont majoritaires alors que la classe d'élite est minoritaire, n'ont pas la connaissance de leurs droits. Et ceci constitue un frein à l'épanouissement personnel de la femme. Si nous n'arrivons pas à s'approprier de cette campagne, si nous ne faisons pas de cette campagne notre façon de vivre, notre mode de vie, je voulais dire, je pense que la plupart des femmes ne seront pas épanouies Et croyez avec moi que la RDC ne va pas se développer. Mais le gouvernement a pu améliorer les instruments juridiques de la femme qui peuvent nous aider aussi à améliorer les statuts juridiques de la femme. Mais comment pourrez-vous vous nourrir de ce que vous ne connaissez pas, de ce que vous ne voyez pas, alors que vous avez faim? Qui doit leur amener cette matière? Qui doit leur amener cette connaissance de droit, si ce n'est que nous, les partenaires, le gouvernement et vous tous qui êtes là? Je parlerai aussi de filles, les jeunes filles, les jeunes, les petites filles. Cette catégorie est plus importante parce qu'en Afrique aujourd'hui, 65% de la population est représentée par les jeunes. Et je pourrais dire que 65% de la population congolaise est représentée par les jeunes. Si déjà les femmes représentent plus de 50% de la population congolaise, nous pourrons dire que cette jeunesse-là peut être à 38%, presque 40% qui est représentée par les filles, constitue une bombe à retardement. Pourquoi? Parce que ces filles ne connaissent pas leurs droits, ces filles ne connaissent pas leurs obligations. On pense qu'être belle, passer dans la rue, c'est ça avoir ses droits, parler français, c'est ça avoir ses droits. Mais la plupart de ces filles-là n'arrivent pas à faire face par rapport aux différents défis qui leur sont présentés dans le milieu professionnel et même dans le milieu universitaire, pour ne pas parler au niveau de milieu scolaire. Les jeunes filles, la plupart ignorent l'existence de textes juridiques qui remettent en cause les pratiques néfastes des us et coutumes dans nos communautés. Récemment, nous avons pu mener des enquêtes avec l'ICOFEM, avec un partenaire ESSOR. C'était par rapport aux tracasseries des différents services de l'État auprès des femmes entrepreneurs. Et nous avons constaté amèrement que beaucoup de femmes ignorent même l'existence d'un code de la famille. Et la plupart, déjà qu'on ignore l'existence de ce code-là, la plupart ne savent pas que ce code-là a été révisité. Donc pour nous, c'est un défi. Nous devons nous tenir la main dans la main pour qu'ensemble, nous puissions faire ce que nous pouvons faire, même dans le bénévolat. Il ne faut pas seulement attendre qu'un partenaire vous donne de l'argent pour faire ça. C'est comme ça que nous autres, nous avons pu maintenant intégrer le monde entrepreneurial pour devenir un peu autonome et être à mesure de subvenir et de réaliser quelques activités sur le terrain, même sans l'appui de nos partenaires financiers et techniques. En milieu scolaire, universitaire et professionnel, plusieurs ignorent leurs droits et sont victimes des abus sexuels et des différents cas de viol. Les instruments juridiques qui portent sur la protection des droits de la femme, de la jeune et petite fille dans notre pays, doivent être connus de tous et appliqués à toutes les instances. Quand je dis connus de tous, c'est-à-dire la population doit connaître et appliquer à toutes les instances, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et même le pouvoir judiciaire. Je m'en vais conclure. L'appropriation de cette campagne n'évolue pas au même titre que les dispositifs juridiques meilleurs de celui il y a 20 années passées. C'est vrai que la campagne de 16 jours d'activisme était initiée en 1991, et pour la première fois ici chez nous au Congo, c'était déjà organisé, célébré en 1996, avant même que les Nations Unies ne décrètent cette journée-là, cette campagne-là en 1999. Jusqu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses qui ont évolué dans le sens positif, mais beaucoup de femmes n'en profitent pas, n'en bénéficient pas. Pourquoi? Parce que seulement elles ignorent l'existence de ces lois et de ces dispositifs. Il est donc préférable de s'investir dans la prévention que de prendre en charge la réparation qui est souvent hypothétique. Là, je m'adresse beaucoup plus à nos partenaires et à nous-mêmes. C'est mieux de prévenir que de guérir. Donc nous devons maintenant beaucoup plus nous investir dans la sensibilisation, dans la vulgarisation des textes, au lieu d'attendre de connaître des cas des personnes, des victimes, parce que souvent, nous, au niveau de la société civile, dans les organisations, nous n'avons pas de frais pour assister ces personnes-là au niveau des instances juridiques. Déjà, pour l'assistance psychosociale, c'est déjà un problème. Pour elle, l'assistance juridique, c'est encore beaucoup, parce que souvent, le bourreau, ce sont les gens qui ont beaucoup d'argent, nous n'avons pas de frais pour ça. C'est pourquoi nous souhaitons qu'on puisse beaucoup plus nous investir dans la campagne, dans la formation, pour que nous puissions avoir des frais. Nous devons organiser des actions de proximité. Je dis et je vous remercie.
Merci, Madame Clotilde Kabemba. On va parler. parler maintenant du rôle des médias dans la réussite de cette campagne d'activisme contre les violences sexuelles basées sur le genre. C'est Madame Anna Maïmona, qui est la présidente de l'UCOFEM, Union Congolaise des Femmes des Médias, qui va nous parler de l'apport des médias congolais, la télévision, la radio, la presse écrite, et aujourd'hui de plus en plus, on parle de la presse en ligne. En RDC, Madame Anna Maïmona, je vous accorde la parole.
Oui, merci pour la parole. Je tiens à remercier les partenaires qui nous ont soutenus pour organiser ces cafés presse, à savoir Internews, avec les financements suisses, complétés par celui de l'USAID. Quand on parle de l'information, on voit les rôles qu'ont les médias d'échanger les habitudes de la population en donnant l'information. Et juste rappeler, comme certains le disent, que l'information c'est un pouvoir. Et donc si vous avez l'information, vous avez la possibilité de changer votre façon de voir les choses. Madame Clotilde l'a dit, qu'il y a l'ignorance des droits. Madame Esther aussi, à travers le ministère, il y a l'ignorance des droits. Et les médias donnent l'information pour que la population sorte de l'ignorance. L'information que les médias donnent, la prend des acteurs qui sont impliqués dans la promotion des droits des femmes. Et c'est dès le début, dès le départ de cette campagne que les médias ont été déjà impliqués pour donner l'information. Et là, pour rappeler, quelqu'un a dit qu'un fait non reporté par les médias n'existe pas. Et donc les médias donnent à des faits de société une autre dimension. Nous avons devant nous ici des confrères, des consoeurs, des caméramens qui sont en train de prendre les images, qui vont être rapportés après, qui va donner à notre café presse d'aujourd'hui une autre dimension. Et donc là, on comprend ce rôle incontournable des médias dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Toujours par rapport à l'information, si on voit la campagne telle que ça a commencé, les médias ont donné un coup de pouce pour que la campagne soit connue. C'est vrai que la campagne n'est pas toujours connue par tout le monde, mais on peut dire que 26 ans après ou 25 ans après, la campagne est quand même connue par une frange de la population grâce aux médias. Aux médias qui rapportent chaque jour les informations liées à la campagne. Et il y a même des initiatives qui sont prises bien avant de commencer la campagne. Les médias annoncent déjà l'événement par des programmes d'actualité, des émissions et autres. Et à côté de l'information, nous avons la formation. Les médias forment, éduquent la population. Et là, on voit aussi l'apport efficace pour les changements de la société. Grâce aux programmes diffusés, au-delà de l'actualité, des magazines, des émissions spécialisées et autres productions, on arrive à éduquer la population, à aider la population à sortir de cette ignorance, à connaître les droits des femmes et à le promouvoir. Si aujourd'hui on assiste à des cas de violences de plus en plus rapportés, c'est parce que justement il y a eu un travail qui a été fait. Travail d'information et travail de formation de la population pour qu'elle puisse adopter une attitude différente vis-à-vis des violences qu'elle subit ou qu'elle vit autour d'elle. Et cette formation continue, parfois même au-delà des supports qui sont connus. Là, je cite la presse écrite, la radio, la télévision et très récemment la presse en ligne. Alors, pour en arriver là, à ces processus, à cet engagement, il y a eu un travail d'implication des médias qui a été fait dès le début de cette campagne. Et ce travail a été appuyé par une analyse, analyse faite par les acteurs impliqués qui ont considéré les médias à la fois comme un problème et une solution. Problème pourquoi ? Parce que les médias véhiculent l'image que la société a de la femme. Quand nous voyons les contenus des médias, en commençant par l'actualité, ces programmes neutres où on voit tous les acteurs intervenir de manière indistincte, l'accès des femmes est limité. On parle pour la RDC de plus ou moins 20% des femmes qui ont accès à l'information. Quand on parle de médias comme problème, les médias peuvent se présenter comme ces supports qui véhiculent l'image que la société a de la femme. Et nous connaissons tous cette image que la population ou la société congolaise véhicule de la femme. Madame Esther a dit, c'est la femme est considérée comme cette personne qui a moins de droits que l'homme. Et comme problème, les médias relaient cela, présentent la femme sous une certaine disposition, parfois plus comme victime que comme personne qui prend des initiatives pour résoudre des problèmes de sa vie. Et donc là, les médias se présentent comme un problème. Les médias, quand on voit aussi d'autres productions comme la publicité, on peut citer quelques publicités qui véhiculent des messages négatifs sur les femmes. Là, les médias se présentent comme un problème. À côté du fait de se présenter comme un problème, les médias sont aussi une solution. Solution quand ils prennent conscience et diffusent l'information de manière équilibrée, de manière juste, pour tenir compte de la justice sociale. Justice sociale parce que quand on voit la société, nos sociétés, c'est composé soit 50-50 des hommes et des femmes, mais pour la RDC, nous savons que c'est 52% des femmes et 48% les restes pour les hommes. Mais quand les médias présentent la femme de manière déséquilibrée, là, c'est un problème. Mais quand ils prennent l'engagement pour changer les choses, pour présenter une image positive de la femme, cette femme qui n'est pas seulement victime, mais qui, après avoir été victime, sort aussi de son silence pour dénoncer, pour s'élever, prendre en compte sa destinée et changer les choses, ça, on voit la partie solution que les médias peuvent apporter. Et là, on a beaucoup d'exemples aussi. Depuis les débuts de cette campagne, les médias ont été associés pour utiliser la partie solution de leur engagement. Leur engagement s'améliore au fur et à mesure, chaque année. Je prends les cas de cette année où les médias ont pris les initiatives des différents médias, ont contacté soit l'UCOFEM ou d'autres structures qui sont engagées, le ministère, pour déjà annoncer les couleurs. Ils n'ont pas attendu le 25 novembre, mais déjà avant le 25 novembre, ils ont commencé déjà à préparer les terrains, à préparer les consommateurs des médias à vivre cette campagne-là. Comme on parle de RAF qui a été au début de cette campagne, j'ai été agréablement surpris de suivre. C'était, je crois, le 25 ou le 24 novembre, je crois que c'est le 25, l'interview de Madame Clotilde sur une radio de La Place. Et j'étais en train de chercher son numéro parce que je l'avais perdu. J'ai appelé la radio pour qu'on puisse me passer le numéro de Madame Clotilde pour l'inviter à ses programmes. Et la personne que j'ai eue, les responsables de ces médias, m'a rappelé que ce numéro que la radio a eu, l'a eu de l'UCOFEM. C'est-à-dire que l'UCOFEM a mis à la disposition de sa radio un répertoire des femmes ressources qu'il utilise. Et pour l'occasion, il est tombé sur la coordinatrice des RAF pour l'inviter. Et donc, c'est juste pour montrer l'engagement des médias. Comment est-ce que nous pouvons nous engager davantage pour justement lutter contre les violences faites aux femmes. Notre rôle, le rôle des médias est connu. Nous sommes là. Nous devons continuer à faire notre travail et à l'améliorer pour le bien de notre communauté. Je vous remercie.
Puisque selon Madame Anna Maïmouna, la presse a joué son rôle, bien qu'il faudra toujours améliorer parce que l'œuvre humaine n'a jamais été parfaite. On va suivre finalement ces témoignages. Ce sont des témoignages recueillis à travers les quelques provinces qui nous donnent leur appréciation de ce qu'ils savent, de ce qu'ils connaissent sur la lutte contre les violences, notamment les violences sexuelles faites aux femmes. Et donc je vous laisse découvrir ces témoignages recueillis à travers les provinces.
Ça fait une vingtaine d'années que nous accompagnons les 16 jours d'activisme. Je peux dire qu'il y a eu des avancées. Je prends le cas de la RDC. Nous avons eu la loi sur les violences sexuelles. On commence à voir que les gens qui commettent ce genre de crimes sont quand même punis. Le nombre de violences sexuelles en RDC a quand même baissé depuis la nomination de la conseillère principale du chef de l'État en matière de violences sexuelles. Mais c'est un processus.
Les acquis dans le cadre, par exemple, de la conscientisation de la femme et de l'homme face aux violences, c'est vrai que les efforts sont fournis. Mais dans un contexte de guerre, de conflit, là, clairement, la campagne n'a pas encore vraiment réussi. Quand on parle de la violence domestique, l'homme contre sa femme, peut-être que ce sont les méthodes qu'il faudrait changer, les méthodes de sensibilisation, les méthodes de sanction, c'est-à-dire des punitions carrément qu'il faut changer, mais on ne doit pas se décourager.
Est-ce qu'il y a eu des avancées? Je dirais oui, parce que bien avant cela, la question des luttes contre les violences faites à la femme était considérée comme un tabou. Au niveau de notre pays aujourd'hui, il y a des lois, il y a des programmes, il y a des stratégie adoptée par la RDC, la stratégie nationale de lutte contre les violences faites à la femme. Aujourd'hui, les chefs coutumiers en parlent. Il y a des provinces où même on refuse à ce que l'on puisse donner en mariage une fille. Moi, ça m'apporte quelque chose lorsque je vois que effectivement, il y a des hommes aussi qui en parlent. Lorsqu'il y a même des autorités qu'on peut amener en prison parce qu'ils ont été auteurs de violences sexuelles. Moi, je me dis, oui, au moins, nous sommes accompagnés par la législation congolaise.
Aujourd'hui, je suis consciente que grâce à cette campagne, j'ai eu beaucoup d'informations sur les outils, sur les textes et sur les expériences positives. C'est vraiment une fenêtre pour donner l'espace aux expériences de succès et aussi une fenêtre pour sensibiliser ceux qui n'ont pas encore compris ce que c'est les violences sexuelles, ce que c'est les violences basées sur le genre.
Les 16 jours d'activisme, c'est une occasion de méditation. J'ai réfléchi beaucoup plus sur ma propre vie, sur mon comportement et vis-à-vis des femmes, sur la violence dont je suis personnellement responsable. Donc c'est vraiment une occasion de se dire, est-ce qu'il faut que je reste dans cet état de choses ou il faut que je change ma vie et que je sois beaucoup plus pacifique, que je sois beaucoup envers les femmes et les enfants, pour que quand on me voit, on ne se dise pas qu'on a affaire à un lion.
La province du Nord qui vous... Nous accueillons de plus en plus de femmes au niveau du bureau, par exemple, dans le cadre de mon travail, qui viennent se plaindre contre les violences dont elles sont victimes. Ça signifie que même la population est sensiblement informée. Ça apporte beaucoup de fruits dans le cadre de mon travail. Ça me donne l'occasion de défendre de plus en plus les femmes victimes de ces différentes violations des droits.
Avant, c'était un peu difficile que les femmes vraiment aient le courage de dénoncer leur bourreau, ou soit de dire que vraiment elle a connu les actes de violence sexuelle. Mais depuis qu'on a commencé à sensibiliser, on a senti que vraiment les femmes commencent à adhérer à notre vision de briser le silence et de dénoncer en tout cas des violences sexuelles. Et aujourd'hui, il y a quelques femmes qui connaissent déjà les lois qui condamnent les violences sexuelles basées sur le genre.
Tout ce que l'on pourrait dire, que les femmes centrafricaines ont pris conscience de l'enjeu et aussi des conséquences néfastes qui découlent de de violences sexuelles. Au niveau des cours et tribunaux, nous avons des cas patents qui découlent des dénonciations telles qu'opérées, effectuées par des femmes qui ne voudraient pas encore, comme au départ, trancher coutumièrement des cas de violences sexuelles. Et au besoin, elles exercent un pressing. Nous, au niveau de la justice, nous avons compris. Nous ne pourrons pas encore passer outre. Lorsqu'il y a un cas de violence sexuelle, il y a lieu de pouvoir le traiter avec la diligence. Au départ, il y avait des transactions. Nous n'admettons pas encore des transactions. L'ICOFEM est là. D'autres mouvements associatifs des femmes sont là pour nous faire la traque afin que le juge, les magistrats, les OPJ et bien d'autres ne puissent pas cautionner, comme au départ, la transaction intervenue en cette matière.
Nous avons gardé le seul intervenant pour la fin, pour une simple raison, ça veut dire que lui va exposer sur deux thèmes en même temps. Il va nous parler des acquis de la lutte à travers le 16 jours d'activisme. Il va en même temps exposer sur les enjeux et perspectives de la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences sexuelles. Docteur Jules Moulimbi, vous avez la parole.
Merci. Je voudrais rappeler ici que le 16 jours d'activisme, c'est une occasion de nous conscientiser tous, de faire des plaidoyers par rapport à toutes les violences basées sur le genre, les violences faites à la femme. Vous avez suivi dans l'historique que c'est en 1991 que la campagne a été lancée par le Centre pour le leadership des femmes. Donc on peut dire ici la société civile, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, la campagne est portée par des nations. Vous avez suivi toujours dans l'historique que c'est plutôt en 1999 que les Nations Unies que l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Donc ça, c'est déjà un des acquis. C'était la question de la société civile. Après, ça a été porté par les Nations Unies. Et aujourd'hui, il s'agit, la campagne Ces jours d'activisme réunit les gouvernements, la société civile, les associations, les médias, toutes les parties prenantes. Donc ça, c'est déjà un des acquis. Nous partons aussi du principe que la violence sexiste n'épargne personne. C'est important. La violence brise des familles. Elle affaiblit notre tissu social. Ça coûte cher à nos collectivités, à l'économie. Et donc, les 16 jours d'activisme nous rappellent la population congolaise qu'il est possible d'agir maintenant et tout au long de l'année pour éliminer toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles. L'année prochaine, le monde va célébrer les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. 70 ans. Mais cette année, cette célébration commence déjà à partir de ces 16 jours d'activisme, à partir de ce 10 décembre, où on va déjà commencer la célébration qui va nous cheminer jusqu'au 16 jours d'activisme de l'année prochaine, pour célébrer les 70 ans. Notre pays, vous vous en doutez, a traversé des moments difficiles, des moments de conflit. Et donc ça a été encore des occasions où les femmes ont subi toute forme de violence polymorphe de tout genre, notamment du point de vue mental, sexuel, physique. Vous vous rappelez aussi que le monde est engagé dans un projet très délicat. Il s'agit des objectifs de développement durable. Le monde est engagé d'ici 2030. On voudrait avoir une planète 50-50. Et ça passe par l'élimination de toutes les formes de violences basées sur le genre. Vous avez entendu, beaucoup de choses ont été faites, mais le chemin à parcourir reste encore long. Parce que chaque fois que nous allons avoir des violences à l'égard des femmes, ça sera une interpellation pour nous, pour faire le plaidoyer, pour unir nos forces et lutter contre les violences sexuelles. Maintenant, le défi par rapport à ça, c'est vulgariser ces lois. Quand on prend les codes de famille, qui durant 13 ans, les différentes parties prenantes, gouvernement, société civile et activistes, se sont battus pour réviser ces codes de famille, extraire dedans des dispositions qui sont discriminatoires. 13 ans durant. Et pendant une des étapes, c'est que ces codes de famille qu'on a révisé finalement, qu'on a promulgué en juillet 2016, oui, c'était une petite enquête qui a été faite à montrer que ces codes de famille que nous avions plus de 20 ans n'étaient pas connus par la grande population et même, ce qui est grave, même par certaines personnalités qui devaient le faire appliquer. Donc, c'est un grand défi pour nous. On a listé une série de lois ici qui on peut se frotter les mains. La RDC a un des cadres juridiques meilleurs, mais le défi demeure l'application. Que ce soit les codes de famille, que ce soit la loi sur la parité, la loi de personnes vivantes, protégeant les personnes vivantes avec le VIH, la loi de la protection des enfants. Nous avons la loi sur les personnes handicapées. Tout ça, ça mérite maintenant d'être vulgarisé pour que le citoyen, au fond fin, puisse les connaître. Ça, c'est un des grands défis auxquels on doit faire face. Dans l'appropriation, vous avez entendu aussi dans l'histoire du pays que c'est RAF, que j'ai sali aussi, qui était à la base. Mais aujourd'hui, nous pouvons vous l'affirmer, puisque nous jouons ces rôles de coordination. Aujourd'hui, on a une planification des activités et des actions sur toute l'étendue de la RDC, menée par plusieurs partenaires. Certainement que tous n'ont pas eu peut-être pas l'occasion de nous renseigner sur ce qu'ils vont faire, mais la planification que nous avons plus d'une vingtaine d'organisations qui ont planifié des activités dans différents coins de la République. Donc, en termes de ça, c'est déjà assez expressif en termes d'appropriation. Mais nous pouvons aussi citer la synergie d'action ou les partenariats public-privé, parce que on a suivi dans les cheminements, c'est une ONG qui prend les devants, le gouvernement récupère la coordination de tout ça, mais on a aussi des privés qui s'engagent aussi dans les violences sexuelles. Je vais beaucoup m'étaler sur les enjeux de la campagne. Je disais au début, tant que nous aurons la persistance des violences sexuelles ou des violences basées sur le genre, dans tous les domaines de la vie, la campagne aura toujours un travail. Si je prends notre pays, nous allons dans les domaines économiques. Aujourd'hui, toute la problématique de l'accès des femmes aux ressources, l'accès des femmes au marché, à l'entrepreneuriat, au crédit, à la terre, tout ça, c'est des défis qui sont devant nous et qui appellent des actions pour pouvoir améliorer. Je disais qu'on a des lois qui ont essayé de régler un certain nombre des choses, mais il faut absolument que tout ça se matérialise et ça demeure des défis pour nous. La participation politique des femmes, je crois qu'il y a un gap important là-bas. Nous avons des textes. Déjà, on parlait des 30%, n'est-ce pas? Mais vous et nous, vous conviendrez avec moi qu'on n'a jamais eu ces 30%, n'est-ce pas? On n'a jamais eu ça. Chaque fois qu'un gouvernement sort, on fait rapidement le calcul. On n'a jamais au fait dépassé 11%. Jamais. On est toujours autour des 5% et tout. Donc cet écart entre les textes et la matérialisation, ça c'est des choses que la campagne Séjour d'activisme doit prendre en charge pour mener un plaidoyer vis-à-vis des décideurs. Si nous allons dans les domaines de la santé, aucune femme ne doit mourir en donnant la vie. Ça, c'est un principe qui est connu. Il faut qu'il y ait des politiques, et il y en a, des politiques publiques pour pouvoir améliorer la santé de la mère. On ne peut pas concevoir qu'en posant un acte aussi noble que de donner la vie, qu'on soit appelé à céder la tienne. Au niveau gouvernemental, il y a des choses qui se font. Je crois que vous avez suivi récemment un programme de réhabilitation des hôpitaux et tout. C'est ce genre d'action que nous attendons, que ça soit aussi poursuivi pour qu'on donne la chance à toute femme de la RDC, partout où elle se trouve, qu'elle soit en mesure de bénéficier des soins adéquats. Sur le plan éducation, au fur et à mesure qu'on avance, école secondaire, école universitaire, ça devient encore un gap important. Et donc, encore une fois, c'est important que les femmes, les filles, accèdent à l'éducation et le plus longtemps possible, et avoir plusieurs filles licenciennes plutôt. Dans les domaines culturels, tous nos us et coutumes, c'est des valeurs. Mais on peut encore déplorer dans certaines coutumes des pratiques jugées entre guillemets rétrogrades, des pratiques qui ne favorisent pas l'émergence et l'expression du potentiel des femmes. Et donc ça demeure encore un gap, un défi que nous devons aussi prendre en charge. Dans le domaine de l'emploi, le mois de mars, vous vous souvenez, on a beaucoup parlé d'emploi décent, n'est-ce pas? C'est un domaine aussi qui est important parce que les femmes ont des capacités comme des hommes et des fois même plus que les hommes pour pouvoir étaler leurs connaissances et leur potentiel. Et ça doit se traduire aussi à l'accès au travail décent. Il y a plein de domaines, hein, je ne pourrais pas citer plein de domaines. On parle de 2030 plutôt, planète 50-50. Aujourd'hui, bravo aux femmes parce qu'elles les ont bataillées. N'oubliez pas d'où nous venons. N'oubliez pas que même dans les démocraties, dans des pays jugés civilisés, entre guillemets, que la femme n'a eu droit à l'élection il n'y a pas longtemps, n'est-ce pas? Et ça, c'est des choses que les femmes ont dû arracher par leur activisme. Maintenant, Onifam a mené à diligenter une enquête. Si on continue dans les rythmes qui est le nôtre actuellement, on a donc d'un côté les femmes qui se mobilisent, qui revendiquent leurs droits et qui essaient de bousculer les lignes. Si on continue comme ça, les femmes continuent cette lutte cavalière, on est parti jusqu'au siècle suivant sans qu'on ait atteint cette planète 50-50 que nous recherchons à travers les objectifs de développement durable. Et donc, aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'impliquer, c'est de faire des hommes des véritables partenaires pour la promotion et la défense des droits de femmes. C'est ça la vaste campagne qui a été lancée par Onifam en 2014, une campagne mondiale dénommée campagne E4She. Et notre pays est aussi engagé dans cette campagne. Aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir d'avoir plus de 83 000 personnes qui ont pris l'action de s'engager en ligne dans cette campagne en RDC, et ce qui place la RDC au cinquième rang mondial. Mais c'est encore rien. C'est encore rien parce que 83 000 pour une population de plus de 80 millions, c'est rien. Et il n'y a pas seulement que les hommes, c'est en majorité les hommes qui se sont engagés, mais il y a aussi des femmes. Mais ce qui est important, c'est de prendre tous cet engagement à pouvoir changer des choses autour de nous. N'attendons pas du gouvernement. Déjà, le fait d'avoir des politiques qui essaient d'améliorer les cadres, l'environnement, ça c'est déjà très important. Maintenant, c'est à nous, dans notre environnement, de faire des choses. Nous avons un rôle à jouer pour faire bouger les choses. Et donc voilà ce que je pourrais dire assez certainement qu'il y a plein de choses que vous connaissez et que, qui peuvent aussi sortir de ces discussions. Mais je crois, en bref, les défis qui nous attendent et le chemin à parcourir, il est encore long, mais ne perdons pas courage. Merci.
Merci, Dr. Jules Moulimbi. Selon les organisateurs, c'est un café de presse qui se veut être également un échange entre vous et les panélistes. Certainement que vous avez des questions à poser à nos panélistes. Je veux vous donner la parole, c'est donc le moment. Madame Noémie Kilembe, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Moi, j'ai justement une question pour Madame Esther et ensuite pour l'ensemble des intervenants. Question à Madame Esther. Et donc, j'aimerais savoir au jour d'aujourd'hui, en 2017, où en est-on avec cette nationale de violence sexuelle basée sur le genre?
Oui, je suis Blandine Zovo de l'Union congolaise des femmes des médias. Ma question s'adresse à Monsieur Jules, Docteur Jules. Nous savons tous que la campagne des 16 jours d'activisme coïncide quelque part avec la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Est-ce que j'aimerais savoir quelle est justement l'incidence de cette campagne de 16 jours d'activisme par rapport à la campagne de lutte contre le VIH-Sida concernant les femmes atteintes du VIH-Sida?
Merci beaucoup, Madame Kamonia. Vous avez la parole et il y a une question qui a été posée à tous les intervenants.
Bon, merci. La première question, il m'a demandé où est-ce qu'on en est avec cette stratégie. Je pense que je disais que parmi les documents élaborés par le ministère du genre, enfants et familles avec ses partenaires, il y a cette stratégie. Cette stratégie qui a quatre dimensions. Et nous avons la prévention, nous avons la protection. La protection, c'est la lutte contre l'impunité. Nous avons l'aspect sanitaire, donc qui est l'aspect de la prise en charge des personnes victimes de violences. Et puis nous avons le quatrième volet, c'est la réinsertion socio-économique. Au niveau du ministère, nous avons une base de données qui collecte donc les violences faites aux femmes, surtout les violences sexuelles. Donc cette base de données est même en ligne. Non seulement cette base de données est là, mais nous publions aussi régulièrement des bulletins d'informations sur l'ampleur des violences. Il y a une diminution sensible des violences par rapport à ce que ça a été. Il y a quand même des provinces qui ont quand même des cas de violences plus élevés. Comme je peux donner pour la ville, province de Kinshasa. Un élément que je voudrais ajouter par rapport à la stratégie, je disais que la stratégie nous a servi, mais également nous l'avons évalué comme document. Et nous avons vu, il y a eu une consultation qui a été faite au niveau de toutes les provinces où il y a eu des forces et des faiblesses. Voilà pourquoi, depuis l'année passée, nous avons décidé de pouvoir réviser la stratégie. Que deviennent les bourreaux? Lorsque j'ai parlé tout à l'heure des volets de la stratégie de lutte contre les violences faites aux femmes ou basées sur le genre, j'ai parlé d'un volet important de la lutte contre l'impunité. Et là, ce matin, je pense que il y a quelqu'un qui a cité les bureaux de la représentante personnelle du chef d'État. C'est aussi un acquis, donc, pour renforcer la lutte contre l'impunité.
Pour ce qui concerne, je vais quand même ajouter sur la stratégie, comme on l'a dit, on l'adapte à certaines circonstances. 2009, la stratégie a été élaborée dans un contexte que vous connaissez. Le pays était presque envahi, n'est-ce pas? Et après... aujourd'hui, le contexte est tout à fait autre. Et ce que l'on peut se dire, la stratégie en question s'adresser seulement les questions de violence sexuelle. Et les autres formes de violence n'étaient pas suffisamment adressées dans ces stratégies. Ça, c'est une des raisons majeures de réviser ces stratégies. Et lorsque nous parlions ici de la campagne de 16 jours d'activisme, effectivement, on s'est interdit de ne parler que de violences sexuelles. Donc, nous avons attaqué les violences basées sur le genre de manière générale, y compris les violences sexuelles, que ce soit les violences psychologiques, économiques, ainsi de suite. C'était fait aussi à dessein. Les chiffres sont là. On peut se dire de manière générale qu'effectivement, la tendance est à la baisse. Aujourd'hui, on vient à peine de tenir un comité de pilotage et on peut déjà vous dire que pour tout le pays, 2016 et tout, on est autour de 7000 cas incidents, je pense, mais l'ensemble du pays autour de 21 000 cas rapportés. Aujourd'hui, en termes d'auteurs, vous avez plus de civils qui sont auteurs de violences sexuelles. Mettons-nous au niveau de la prévention, il existe des mécanismes communautaires. Il faut travailler à ce niveau-là pour que nous ayons une bonne prévention par rapport aux violences sexuelles. Il faut dire ici, on l'a déjà souligné, que nous avions amélioré les cadres juridiques. Ça, c'est un fait. L'architecture des structures judiciaires, des fois, ne permet pas à ce que l'on accède facilement à ces services. Vous avez encore des endroits où, pour aller dans une juridiction, il faut faire plus de 30 kilomètres. Et ça fait que quelqu'un qui est déjà meurtri dans son cœur à travers un acte de violence sexuelle ne sait pas se déplacer à plus de 30 kilomètres pour aller bénéficier des services judiciaires. Donc ça reste un défi. On a des jugements, mais la réparation cause problème. Et l'on peut quand même se réjouir du fait que un des premiers procès qui a procès phare dans les cas de violences sexuelles, c'est ça, le procès de Songomboyo. Pour finir sur ce point, on peut se dire quand même que la touche qu'a apporté les bureaux du représentant personnel du chef de l'État en matière de lutte contre les violences sexuelles et recrutement d'enfants, c'est justement dans la poursuite de certains responsables, comme des généraux. Il y a eu des procès. Il y a des généraux qui sont en prison à cause des violences sexuelles. On a des autorités, certaines autorités politico-administratives, qui sont punies et arrêtées, jugées par rapport aux violences sexuelles. Et ça, c'est un signal fort. Incidence de la campagne de 16 jours d'activisme par rapport à la journée mondiale de lutte contre la journée mondiale des SIDA. Je pense que les 16 jours d'activisme, ça va du 25 novembre, comme on l'a dit, au 10 décembre. Et il existe des dates importantes dans cette période, notamment le 25 lui-même et le 10, on l'a déjà dit. Il y a ce 1er décembre qui est la journée mondiale de SIDA, et aussi le 4 décembre, le massacre des étudiantes à Montréal. Le 1er décembre, c'est important, et nous, chaque année, il y a toujours toute une série d'activités menées dans ces cadres-là. Et ça coïncide pour la RDC parce que, comme vous le savez, le 1er décembre, on célèbre aussi une des martyrs des victimes de violences sexuelles, Anouarit Nengapeta. Donc ça a un symbole. Cette année, qu'on veut avoir 80% des personnes dépistées qui sont malades accèdent au traitement. Et je crois que si on réussit ça, c'est des choses qui peuvent nous aider à réduire sensiblement les cas de VIH-SIDA dans les pays. Cette année, les acteurs se sont mobilisés ensemble pour promouvoir encore cet objectif de 80-80 que poursuit le monde entier et la RDC est engagée dans ça.
Merci beaucoup. Nous, la société civile, nous avons milité pour qu'on puisse mettre en place un dispositif qui puisse mettre à jour le nombre de cas de violences sexuelles qu'on était en train de répertorier dans les provinces ici à Kinshasa. Mais par rapport à ce que docteur Jules venait de dire, c'est vrai qu'à l'époque, on enregistrait beaucoup plus les cas de violences sexuelles. Mais ce n'est pas pour autant dire qu'il n'y avait pas de violences sexuelles au niveau de nos familles. Seulement, c'était des questions tabou qu'on ne pouvait pas soulever au niveau des familles, ça existait. Mais cette façon-là, la manière dont l'État congolais s'est investi en ayant de lois par rapport aux violences sexuelles, a permis même aux violences sexuelles commises au niveau des familles d'être reportées, d'être dénoncées au niveau des instances judiciaires. Même il y a des personnes qui nous contactent au niveau du réseau pour dénoncer des cas de violence. Mais maintenant qu'on demande aux gens de dénoncer à des gens qui sont en train de dénoncer. Nous savons que la plupart des personnes infectées, ce sont des femmes. Ce sont des femmes parce que ce sont des personnes vulnérables. Par rapport à ces jours d'activisme, nous sensibilisons les femmes d'être à mesure de négocier les rapports avec leurs partenaires. Parce que les femmes, souvent, ne sont pas à mesure de négocier la modalité et même la façon dont les rapports sexuels doivent se passer avec leurs partenaires. Par rapport à ces jours d'activisme, ils ont ce droit-là de les négocier à l'avance. Si le partenaire n'est pas d'accord avec ce que la femme veut, alors la femme, en ce moment-là, peut-être à mesure de décliner l'offre. Mais elle pourra décliner seulement l'offre si la femme a cet épanouissement économique. Si la femme en elle a l'estime de soi, en ce moment-là, elle pourra décliner l'offre.
Ce forum est financé par la coopération suisse et avec un appui en supplément d'aide de l'USAID.
Nous vous disons donc merci d'être venu participer à ce café de presse, 16 jours d'activisme de lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre. Quel acquis. Merci également aux panélistes d'avoir disponibilisé de leur temps pour venir également intervenir dans ce café de presse. J'ose croire que les professionnels des médias que vous êtes ou que nous sommes feront en sorte de mettre à profit tout ce qui a été dit ici afin que cette campagne puisse atteindre tous les coins et les recoins de la République démocratique du Congo.